Vous écoutez, on lit pour vous.
5 questions sur le service d'employabilité, paru dans l'édition hiver 2025 de la revue Paraquad. 1. Quelle est la clientèle desservie aujourd'hui par le service d'employabilité de Mémo Québec? Le service d'employabilité est spécialisé dans l'accompagnement des personnes ayant des limitations physiques ou neurologiques sur le territoire de l'île de Montréal. Il accompagne les participants et les participantes dans leur recherche d'emploi ou leur orientation professionnelle. Si vous voulez bénéficier du service d'employabilité, vous devez être âgé de plus de 16 ans. Une preuve d'un diagnostic médical vous sera également demandée pour permettre un meilleur accompagnement. 2. Combien de personnes sont desservies par le service? L'entente mise en place avec Service Québec autorise l'organisme à accueillir cette année 194 nouveaux participants. L'an passé, le service a dépassé son objectif en termes de placement en emploi de 147% et a placé 133 personnes alors que la demande initiale était de 92. Les participants sont accompagnés par une des 3 conseillères en emploi, par la conseillère en orientation ou par l'agent d'intégration, en fonction de leurs besoins, sur une période maximale de 52 semaines, soit une année. Quand le service reçoit une nouvelle demande, cette dernière est traitée dans les semaines qui suivent. Il n'y a aucune liste d'attente pour rencontrer un ou une conseillère de Mémo Québec. 3. Quel est le processus mis en place une fois le participant admis? Le ou la conseiller-conseillère prend le temps d'évaluer les besoins du participant ainsi que ses intérêts et ses limitations. Il est en effet important pour l'accompagnement de déterminer ce que le participant peut faire. Un plan d'action est ensuite défini avec le participant et des démarches sont entamées pour chercher un emploi, préparer un CV, une lettre de présentation, faire des simulations d'entrevue ou encore faire des suivis avec les employeurs. Le ou la conseiller-conseillère essaie d'outiller le participant, de l'amener à croire en ses compétences et de développer son autonomie pour qu'il puisse par la suite effectuer ses recherches seul. Les conseillers aident aussi les participants à mieux se préparer pour divulguer leurs limitations en milieu de travail. Il est possible que les conseillers collaborent avec d'autres ressources telles que les centres de réadaptation et leur réfèrent un participant afin de procéder à une évaluation concrète de ses capacités de travail ou pour une adaptation de poste de travail. Citation : La motivation des participants compte pour beaucoup, conclut Samira Fezani, la coordonnatrice du service. Et nous, on croit en eux. Fin de citation. 4. Qui travaille au service d'employabilité et quels sont les rôles de chacun? Agent d'intégration et de maintien en emploi, par Rudy Carlier. Mon rôle en tant qu'agent d'intégration et de maintien en emploi est d'offrir un accompagnement intensif et personnalisé directement dans le milieu de travail auprès des personnes nécessitant un accompagnement plus soutenu, et ce, alors qu'elles occupent déjà un emploi ou s'il s'agit de leur premier emploi. Ce qui me stimule en tant que professionnel, c'est le besoin et la capacité à m'adapter à différents milieux de travail et à divers secteurs d'activité. Cela me plonge dans des interventions parfois rapidement. À ce moment-là, je dois être capable d'analyser une situation problématique face à des difficultés conjoncturelles ou personnelles, tout en composant à la fois avec le travailleur et l'employeur. Ce poste valorise mes capacités d'adaptation et de compréhension des enjeux de chacun. Mon quotidien, qui ne se limite pas qu'au bureau, m'amène à intervenir sur place en milieu de travail. Ce que j'apprécie, c'est le développement d'outils, de stratégies applicables en milieu de travail pour favoriser l'acquisition, le développement et le maintien des compétences dans l'autonomie de la personne, ainsi que ma contribution au processus de résolution de conflits. Mes réussites dans mon travail au quotidien sont significatives par ma présence et ma sensibilisation à travers l'implantation, l'accompagnement individualisé et soutenu auprès des différents acteurs, participants, employeurs. Les solutions que je propose face aux obstacles importants que peuvent rencontrer nos participants pour intégrer ou réintégrer leur emploi et pour les y maintenir sont le résultat d'échanges, de dialogues, de sensibilisation et d'aide apportée pour se comprendre l'un l'autre face à nos propres repères de vie et de situation. En résumé, les activités de l'agent d'intégration sont multiples et s'adaptent aux besoins de la personne dans son milieu de travail. Conseillère en emploi, par Sonia Roy. Ce n'est pas souvent que j'ai la chance de parler de mon rôle de conseillère en emploi auprès des personnes en situation de handicap, un emploi que j'exerce depuis bientôt 15 ans. Mon principal rôle est de prodiguer des conseils et de donner des outils aux participants-participantes qui sont à la recherche d'un emploi, ce, sur tous les aspects de la recherche et de la planification de leur carrière. Je conseille également les employeurs sur les bonnes pratiques d'embauche. Ce travail me permet d'aider concrètement les personnes à s'engager professionnellement et à devenir des acteurs importants dans notre société. C'est très valorisant de voir une personne retrouver sa confiance en elle au moment où elle se fait offrir un emploi. En proposant un accompagnement personnalisé aux personnes en recherche d'emploi, je contribue à leur épanouissement professionnel et à la valorisation de leurs compétences. Ma plus grande réussite est de défaire les préjugés que peuvent avoir les employeurs lors de l'embauche d'une personne en situation de handicap et de voir les personnes que j'accompagne dans des emplois valorisants et inclusifs. Conseillère en orientation, par Mélissa Lévy. Je suis conseillère en orientation chez Mémo Québec depuis une quinzaine d'années maintenant. Mon rôle est d'accompagner les gens qui me consultent dans leurs réflexions quant à leur place sur le marché du travail. Plusieurs se sentent perdus, à la croisée des chemins, dans le brouillard ou au creux de la vague, lorsqu'ils viennent pour la première fois dans mon bureau. Toutes ces métaphores éloquentes illustrent chez nos clients le besoin de prendre le temps de se déposer, de poser un regard nouveau sur leur situation et de construire un projet professionnel. J'offre un espace de compassion et de compréhension face à ce qui est vécu, ainsi qu'un accompagnement dans la recherche de solutions. Je prends le temps de revenir avec eux sur leurs expériences antérieures pour établir leur bilan de compétences. Je leur propose des exercices de connaissance de soi ou l'administration de tests psychométriques. L'important, c'est que les gens se connaissent mieux pour choisir des environnements de travail qui leur conviennent, une mission professionnelle qui donne un sens à leur parcours et qu'ils effectuent des tâches qui leur plaisent. En fonction des gens que je rencontre, les parcours et les projets varient grandement. Je suis touchée chaque fois que je vois une personne qui retrouve un sens à son parcours professionnel, un objectif à atteindre ou un sentiment de participer à nouveau à la société. 5. Et si je ne suis pas admissible à un suivi avec Mémo Québec, car je n'habite pas sur l'île de Montréal? Pour les personnes ayant des limitations et qui souhaiteraient recevoir un soutien dans leur recherche d'emploi ou d'orientation professionnelle et qui habitent dans les autres régions du Québec, il existe d'autres services du même type dans chaque région de la province. Le ROSEPH, R-O-S-E-P-H, le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, est une organisation à but non lucratif qui regroupe 25 organismes spécialisés qui favorisent l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Il vous suffit de vous rendre sur le site Internet et de chercher l'organisme auquel vous adressez dans votre région, https://roseph.ca. Un milieu de travail adapté, c'est quoi? Afin d'être en mesure d'accomplir leurs tâches de travail, les personnes avec incapacité peuvent avoir besoin que leur milieu de travail soit adapté à leur état et notamment avoir accès à un horaire flexible ou une réduction du temps de travail, une redéfinition des tâches telles que des tâches modifiées ou différentes, un poste de travail modifié ou ergonomique, du matériel informatique ou encore à une aide technique, par exemple synthétiseur vocal, du soutien humain, par exemple, interprète en langage gestuel, lecteur, etc., et un environnement de travail accessible, par exemple, ascenseurs adaptés, rampes, etc. Source, cyberbulletin officiel de l'Office des personnes handicapées du Québec. C'était 5 questions sur le service d'employabilité paru dans l'édition hiver 2025 de la revue Paraquad.
Comment la mafia s'est enrichie sur le dos des aînés? Un texte de Vincent Larouche et Daniel Renault paru le 20 octobre 2025 dans La Presse. La mafia montréalaise s'est enrichie outrageusement ces dernières années grâce aux fraudes de type grands-parents qui se répandaient comme un cancer aux États-Unis. Un flot de diamants importés de New York a permis de rapatrier au Québec les profits de ce cruel racket, avec l'aide de bijoutiers peu scrupuleux. Des documents obtenus par La Presse démontrent pour la première fois les ramifications du réseau. « S'il vous plaît, l'ami, cette semaine j'aurai besoin de la viande pour le barbecue jeudi. » Le message texte est apparu en milieu de matinée le 7 septembre 2020 sur le téléphone du Montréalais David Anthony D'Irienzo. Il a regardé son appareil et a reconnu l'expéditeur. Nul autre que Francesco Sollecito, frère du co-chef du clan sicilien de la mafia à Montréal. Le langage codé était clair. L'organisation de D'Irienzo roulait sur l'or grâce aux fraudes ciblant les personnes âgées. Chaque semaine, il devait donner à manger à la mafia, c'est-à-dire lui verser une partie de ses profits. Par son message, Sollecito lui annonçait que le paiement du tribut hebdomadaire était devancé à jeudi. D'Irienzo s'est exécuté. Son chauffeur s'est rendu dans un restaurant italien d'Antique Quartier-Ville pour remettre l'argent à Francesco Sollecito. La rencontre a été brève. Sollecito s'est levé et est parti vers un café du quartier Saint-Michel, bien connu pour servir de cache de drogue et d'argent. Il y est entré en tenant des liasses, en est ressorti les mains vides. Dissimulé à proximité, des policiers de l'équipe de filature de la Sûreté du Québec avaient capté toute la séquence. Un meurtre comme point de départ. La semaine dernière, au Palais de justice de Montréal, D'Irienzo et plusieurs de ses subalternes ont plaidé coupables à une série d'accusations criminelles pour leur participation à un réseau de fraude de type grands-parents. Tous avaient été arrêtés en 2023 dans le cadre du projet Partenariat, une enquête conjointe de la Sûreté du Québec et du FBI américain. La presse a pu consulter des centaines de pages de documents judiciaires inédits déposés devant les tribunaux canadiens et américains en lien avec cette enquête. La preuve révèle les sommes colossales qui étaient en jeu, mais aussi le nombre insoupçonné d'intervenants qui prenaient leur part des profits. Mafieux, blanchisseurs d'argent, facilitateurs. Beaucoup de gens bénéficiaient des fruits du crime sans avoir à se salir les mains en participant directement aux fraudes. La plupart n'ont jamais été accusés. C'est un meurtre qui a d'abord lancé la police sur les traces du réseau au Québec. Le 10 mai 2019, Éric Francis Desouza, 24 ans, a été abattu dans un restaurant du quartier 1030. Les policiers ont vite constaté que la victime, tout comme ses amis qui étaient attablés avec lui, étaient impliqués dans des fraudes ciblant les personnes âgées. D'Isouza était tombé en disgrâce auprès du groupe avant d'être exécuté froidement. La Sûreté du Québec a alors commencé à étudier le fonctionnement du réseau grâce à l'écoute électronique, à des opérations de filature et à la collaboration précieuse d'informateurs confidentiels. David Anthony D'Irienzo chapeautait plusieurs cellules de fraudeurs qui installaient leur centre d'appel dans des logements du Grand Montréal loués sur Airbnb. Le réseau achetait à fort prix des listes de sollicitations indiquant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le revenu estimé de citoyens américains âgés de 70 à 95 ans. Il utilisait des téléphones prépayés et appelait toujours vers les États-Unis afin de créer une distance avec les victimes et de compliquer le travail des autorités. Le scénario est désormais bien connu. Les arnaqueurs se faisaient passer pour le petit-fils de la victime disait avoir été arrêté et demandait de l'argent pour être libéré sous caution. Un complice se faisait passer pour un policier, un avocat ou un juge prenait ensuite le relais. Il demandait d'envoyer l'argent dans un colis par UPS ou FedEx. Un complot cruel. C'est un complot cruel, a souligné le procureur fédéral américain Sean R. Delaney lors d'une audience devant un tribunal de Baltimore. Les fraudeurs injuriaient, harcelaient, tourmentaient les personnes âgées vulnérables. Ils ont bombardé d'appels une dame tout en sachant qu'elle était en train d'assister à des funérailles. À une autre qui leur expliquait qu'elle souffrait de sclérose en plaques, ils ont suggéré de réhypothéquer sa maison pour faire un versement. Les policiers entendaient les fraudeurs se moquer de la misère des victimes lorsqu'ils raccrochaient. Plusieurs fois, les enquêteurs québécois ont demandé au FBI d'intervenir pour empêcher une victime de verser l'argent demandé après l'avoir entendu se faire arnaquer grâce à l'écoute électronique. On n'a laissé aller aucune infraction. Il n'en était pas question, a raconté à la presse l'inspecteur Martin Robert, qui était à l'époque le lieutenant responsable de l'équipe d'enquête. La Sûreté du Québec a même demandé l'envoi d'urgence d'une ambulance chez une victime qui avait eu un malaise lors d'une conversation téléphonique avec un fraudeur. David Anthony Di Rienzo prétendait disposer de 30 équipes chargées de collecter l'argent à travers les États-Unis. Des jeunes désœuvrés, en quête d'argent rapide, sillonnaient le pays, se faisaient payer le transport et le logement, ciblaient des maisons inoccupées ou faire livrer des paquets contenant l'argent. L'adresse était fournie aux victimes, qui croyaient l'envoyer à un juge ou à un avocat. Les collecteurs attendaient le livreur, ramassaient le colis, puis disparaissaient. Des bijoutiers pour blanchir l'argent. L'ampleur des sommes dérobées est difficile à chiffrer. Le réseau opérait déjà depuis 5 ans lorsque l'enquête a démarré. Chose certaine, l'argent coulait à flot. Une analyse du téléphone de Paul Letourneau, l'un des accusés ayant plaidé coupable, a démontré aux policiers qu'en seulement 4 jours, il avait fait 487 appels et dérobé un total de $50 000. Aux États-Unis, un collecteur d'argent devenu délateur estimait que son équipe pouvait ramasser de 30 à 100 paquets par semaine. Lors d'une semaine particulièrement lucrative, son groupe avait ramassé $600 000. Traverser la frontière avec de telles sommes en liquide aurait attiré l'attention des autorités. Des fraudeurs avaient donc recours au service de blanchisseurs d'argent. Les fonds amassés sur le sol américain étaient apportés chez un courtier en pierres précieuses accommodant de la 47e rue à Manhattan, en plein district des Diamants. Un bijoutier montréalais complice du réseau se rendait ensuite chez le courtier new-yorkais pour y prendre possession d'un lot de diamants, ce qui semblait naturel, vu son métier. Ce complice, Abid Jing Turk, vice-président de Bijoux Marsan, conservait ensuite les pierres à sa bijouterie de la rue Sainte-Catherine et remettait la somme d'argent équivalente à David Di Rienzo, tout en conservant une coquette commission. Intercepté par des enquêteurs américains lors d'un de ses voyages, Jing Turk a tout avoué. Il estime avoir échangé pour $2 millions en bijoux pour David, explique une enquêteuse de la Sûreté du Québec dans une déclaration déposée à la Cour. Il a aussi avoué avoir collecté directement $500 000 additionnels auprès des équipes de collecteurs chargées de ramasser les paquets, une somme qu'il a aussi convertie en diamants. Le bijoutier a juré aux autorités qu'il ignorait que l'argent provenait de fraude. « Il croyait plutôt être au service de narcotrafiquants », disait-il. Il n'a été accusé de rien au terme de l'enquête. « Je n'ai aucun commentaire à faire », a-t-il laissé tomber lorsque joint par la presse. Sur la PCU. Pendant des années, les fraudeurs montréalais ont vécu dans le luxe grâce au crime. Pendant la pandémie de COVID-19, Di Rienzo recevait de surcroît la prestation canadienne d'urgence, PCU, mise en place pour aider les gens ayant perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire. David Anthony Di Rienzo questionne sa mère à savoir si le dernier chèque est arrivé. Il se plaint d'avoir trop d'argent dans son compte, a noté une policière dans son résumé d'une séance d'écoute électronique réalisée pendant cette période. L'organisation devait toutefois verser une part importante de ses revenus à ses protecteurs de la mafia. Di Rienzo était en communication constante avec Francesco Sollecito et le rencontrait régulièrement avec ses complices. Les policiers ont par ailleurs constaté que ce dernier chapeautait une autre organisation active dans le même type de fraude, en parallèle. Tous ces gens devaient verser une part importante de leurs profits aux bons du crime organisé. C'était le coup pour travailler dans le milieu interlope. Di Rienzo a été enregistré par la police alors qu'il expliquait le principe à un comparse. « Si je collecte 100 000 d'un kid à Boston, par exemple, il y a 50 000 qui vont automatiquement à Sollecito », lit-on dans un résumé d'écoute déposé à la cour. Di Rienzo affirmait que si des gens ne versaient pas leurs redevances, ils risquaient de subir les foudres du « pastagai », en référence à un mafieux. Francesco Sollecito n'a pas été arrêté dans le cadre du projet Partenariat, mais les policiers ont épinglé plus d'une douzaine de suspects dans la région de Montréal en 2023. L'un d'eux a écopé d'une peine à purger à domicile la semaine dernière. Mais le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé qu'il réclamerait des peines de prison pour plusieurs des autres. Aux États-Unis, des collecteurs d'argent ont écopé de lourdes peines. Les enquêteurs ont travaillé très fort. C'est une fierté de s'attaquer à une organisation criminelle qui abuse des personnes vulnérables, affirme l'inspecteur Martin Robert. Ça vient dire à tous les criminels, même si vous décidez d'aller aux États-Unis, on va vous trouver, vous arrêter et vous traduire devant la justice, conclut l'inspecteur. C'était « Comment la mafia s'est enrichie sur le dos des aînés », un texte de Vincent Larouche et Daniel Renault, paru le 20 octobre 2025 dans La Presse.
Roger Bilodeau, une vie d'engagement et de leadership au service des autres. Un texte de la rédaction, paru le 20 août 2025 dans le Montréal FADOC. Roger Bilodeau est l'exemple parfait de ce que l'implication communautaire peut accomplir lorsqu'elle est portée par la passion, la rigueur et un profond désir d'améliorer la vie des autres. Membre actif de la FADOC, région Île-de-Montréal et figure centrale de l'Amicale des retraités de la Banque nationale, M. Bilodeau a consacré plus de 15 ans à bâtir des ponts entre les membres, à encourager la participation et a insufflé une énergie nouvelle au sein des organisations qu'il a servies. Son parcours à la FADOC débute un peu par hasard en décembre 2008, lorsque, en rejoignant l'Amicale des retraités de la Banque nationale, il devient également membre de la FADOC région Île-de-Montréal. Très vite, il prend conscience de l'intérêt et des avantages qu'apporte cette affiliation. Citation : C'est plus qu'une carte de membre. C'est une porte ouverte sur des activités, des services et un réseau qui enrichissent notre quotidien, raconte-t-il, fin de citation. Un bâtisseur engagé. Dès 2009, Roger s'engage pleinement en devenant membre du conseil d'administration de l'Amicale. Nommé trésorier en 2010, vice-président en 2012 puis président en 2015, il n'a cessé de travailler avec son équipe pour faire évoluer cette organisation qui regroupe aujourd'hui près de 2350 membres répartis dans 9 régions du Québec et même l'Est de l'Ontario. Sous sa gouverne, l'Amicale s'est dotée d'une mission, d'une vision et de valeurs fortes. Favoriser les rencontres à travers les activités sociales, culturelles et sportives et maintenir un réseau d'informations vivant et accessible. Citation, Nous avons toujours cherché à promouvoir la socialisation et la participation pour une vie active et épanouie de nos membres, explique-t-il, fin de citation. Même pendant la récente pandémie, Roger et son équipe ont su s'adapter grâce à des choix technologiques judicieux. Citation, « Nous avons maintenu le lien avec nos membres, ce qui a été essentiel dans ces moments d'isolement », souligne-t-il avec fierté. Son rôle à la FADOC. En parallèle, Roger a également été membre du conseil d'administration de la FADOC région Île-de-Montréal pendant plusieurs années. Son implication a surtout porté sur le comité voyage et activités, où il a pu mettre à profit ses 38 années d'expérience professionnelle à la Banque nationale, combinées à ses études universitaires complétées en soirée jusqu'à une maîtrise. Les activités qui le touchent le plus? Celle qui allie utilité et plaisir. Conférences sur la santé, la sécurité, la prévention du harcèlement, mais aussi les voyages et activités physiques qui favorisent la socialisation. Citation, ces initiatives sont précieuses pour briser l'isolement et maintenir une belle qualité de vie, affirme-t-il, fin de citation. Inspiré par l'exemple. Pour Roger, le bénévolat est une véritable source de vitalité. Citation, s'impliquer permet de se sentir utile, de partager son expérience et de faire avancer des dossiers importants, dit-il, fin de citation. Il croit fermement que la société a besoin de bénévoles et que chaque engagement, petit ou grand, peut inspirer d'autres à suivre le pas. Même en dehors de ses responsabilités associatives, Roger reste un homme actif. Golf, 3 fois par semaine, entraînement physique, 5 jours sur 7, natation, vélo, sans oublier des moments précieux auprès de ses enfants et petits-enfants. Citation, cultiver ses passions et ses relations, c'est ce qui nous garde vivants et heureux, conclut-il avec la sagesse de quelqu'un qui a toujours su allier action et réflexion. Une vie dédiée au service et à la communauté. Roger Bilodeau incarne les valeurs mêmes que la FADOC s'efforce de promouvoir. L'engagement, le respect, la coopération et le plaisir de vivre activement. À quelques mois de conclure son mandat à la présidence de l'Amicale, il reste animé par la même conviction. Citation, « Quand on s'implique, on reçoit autant, sinon plus, que ce que l'on donne. » Fin de citation. C'était Roger Bilodeau, une vie d'engagement et de leadership au service des autres. Un texte de la rédaction paru le 20 août 2025 dans le Montréal FADOC.